Bienvenue sur la radio du monde, il est 1h à Paris, minuit en temps universel.
Antoine Galen.
À la une, Volodymyr Zelensky veut maintenir la pression diplomatique sur la Russie. Message adressé en visioconférence aux 27, présents à Bruxelles ce jeudi à l'occasion du Conseil européen. En réaction, Emmanuel Macron annonce un sommet de la coalition des volontaires jeudi prochain à Paris. On fait le point dès le début de ce journal. Le Premier ministre canadien Mark Carney convoque des élections législatives pour profiter de la tendance anti-Trump. Une campagne dominée par un seul thème, la relation avec son voisin américain. Dans ce journal également, le Comité international olympique sera désormais dirigé par une femme, la Zimbabwéenne Kirsty Coventry a été élue haut la main à la surprise générale. Et puis c'est le MeToo de l'enseignement catholique. Après les révélations de violences physiques et sexuelles de l'établissement de Bétaram, 8 collectifs de victimes de l'enseignement catholique ont été auditionnés ce jeudi devant les députés français. L'Ukraine ne discutera pas d'un transfert de la propriété de ses centrales nucléaires aux États-Unis. Volodymyr Zelensky ferme la porte à la proposition de Donald Trump, évoquée mercredi dans un échange téléphonique. Si le président ukrainien appelle les Européens à poursuivre leur soutien militaire, il les exhorte de rester fermes face à Vladimir Poutine. Message adressé en visioconférence lors du Conseil européen à Bruxelles ce jeudi.
Yesterday, I had a productive conversation with President Trump.
J'ai eu une conversation productive hier avec le président Trump. Depuis le tout début de la guerre, l'Ukraine plaide pour ce qui est au cœur des discussions en ce moment, la fin des attaques contre l'énergie, contre les infrastructures et pour un cessez-le-feu en mer. Et nous continuons à soutenir ces efforts. Nos équipes se battront aussi pour un cessez-le-feu sur Terre. Je vous exhorte à poursuivre les sanctions contre la Russie, à lutter contre les stratagèmes et les tentatives de la Russie de financer sa guerre. Les efforts diplomatiques ne signifient pas qu'il faut réduire la pression sur la Russie. Nous devons continuer à pousser la Russie vers la paix. Ensemble, avec vous, bien sûr, aussi avec les États-Unis et avec tous nos autres partenaires.
Une rencontre entre la Russie et les États-Unis est prévue lundi en Arabie Saoudite pour discuter d'une trêve limitée en Ukraine. Autre réunion, jeudi prochain, un sommet de la coalition de volontaires se tiendra à Paris en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est ce qu'a déclaré le président français Emmanuel Macron. Première riposte du Hamas après les attaques meurtrières de l'armée israélienne qui ont fait plus de 500 morts en 3 jours selon la défense civile palestinienne. Le Hamas a affirmé avoir tiré des roquettes sur Tel Aviv et appelle la Ligue arabe ainsi que l'Organisation de la coopération islamique à faire pression pour mettre fin au génocide. De son côté, l'armée israélienne a interdit toute circulation sur le principal axe routier qui traverse l'enclave du nord au sud. Elle ajoute que son opération terrestre à Rafah doit s'étendre dans le centre et le nord de la bande de Gaza. Manifestation sous tension à Istanbul. La police a fait usage de balles en caoutchouc ce jeudi en direction d'un rassemblement devant l'hôtel de ville. Plusieurs milliers de personnes ont demandé la libération d'Ekrem İmamoğlu, l'opposant numéro 1 de Recep Tayyip Erdogan, arrêté ce mercredi. Il devait se présenter à l'élection présidentielle de 2028 ce dimanche sous la bannière du CHP. Il n'aura pas attendu avant de se lancer dans la bataille. Le Premier ministre canadien Mark Carney veut une majorité au Parlement. Pour ça, il va annoncer dimanche qu'un scrutin législatif anticipé aura lieu le 28 avril. Une campagne électorale qui promet d'être centrée sur les menaces de Donald Trump. Guerre douanière et menaces d'annexion, les pressions américaines sont nombreuses. Anne Verdaguer.
Les partis d'opposition au Canada qui réclament la tenue de ces élections depuis plusieurs mois sont déjà sur les rangs. Le Parti conservateur et le nouveau Parti démocratique ont désigné la plupart de leurs candidats, tout comme le Parti libéral au pouvoir qui mise sur l'expérience de banquier central du Premier ministre Mark Carney pour rassurer les Canadiens confrontés à une guerre douanière avec les États-Unis. Ce scrutin se joue principalement sur le bras de fer entamé avec Donald Trump. Le nouveau Premier ministre veut profiter de ce contexte international hors norme énorme. Son parti, promis à une lourde défaite électorale lors de la démission de Justin Trudeau, est à présent au coude à coude dans les sondages avec le parti conservateur. Mac Carney, qui a aidé le Canada à surmonter la crise financière de 2008 avant de se retrouver à la tête de la Banque d'Angleterre en plein Brexit, semble être plébiscité pour son expérience de gestion des crises. Donald Trump s'est lui déjà invité dans la campagne électorale canadienne, donnant un coup de pouce à Mac Carney en affirmant sur Fox News qu'il était plus facile de traiter avec un libéral.
Et le successeur de Justin Trudeau en déplacement dans le nord canadien a annoncé une série de mesures pour renforcer la sécurité et la souveraineté du pays. Dans son premier discours officiel, Mac Carney estimait que les États-Unis de Donald Trump étaient un pays auquel le Canada ne pouvait plus faire confiance. Plus de 300 migrants vénézuéliens bloqués au Mexique sont arrivés ce jeudi à Caracas. Ils ont été accueillis par le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello. De son côté, Washington a demandé au président vénézuélien Nicolas Maduro la reprise des vols de rapatriement de migrants. Et ce, 5 jours après l'expulsion par les États-Unis vers une prison au Salvador de vénézuéliens accusés d'appartenir à des gangs criminels. C'est une première pour le CIO, le Comité international olympique sera désormais dirigé par une femme. La Zimbabwéenne Kirsty Coventry a en effet été élue ce jeudi à Costa Navarino en Grèce à la tête de l'institution en remplacement de l'Allemand Thomas Barr. L'ancienne nageuse double championne olympique a été élue haut la main à la surprise générale. Éric Mamrut.
Un vrai plébiscite pour Kirsty Coventry, élue présidente dès le premier tour de scrutin, avec une majorité absolue de 49 voix sur les 97 votants. Son principal rival annoncé, l'Espagnol Juan Antonio Samaranch Jr., a hérité de 28 suffrages contre 8 seulement à l'ancien athlète britannique et président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coe. Encore moins pour les 4 autres candidats, parmi lesquels le Français David Lapartien, qui a recueilli 4 voix. Une vague Coventry favorisée sans doute par le soutien de Thomas Bach, même s'il s'en défend publiquement, le président sortant du CIO a bien appuyé officieusement la candidature de la Zimbabwéenne. C'est lui en tout cas qui l'avait intégré à la commission exécutive du CIO en 2018. Kirsty Coventry, entrée au CIO 5 ans plus tôt à la commission des athlètes alors qu'elle était encore nageuse. Ce n'est qu'en 2016, forte de 7 médailles olympiques décrochées sur 100 et 200 mètres d'eau, qu'elle a raccroché le bonnet de bain pour embrasser par la suite une carrière également politique. Elle est ainsi depuis 2019 ministre des sports du Zimbabwe. En désignant à sa tête une femme, de surcroît une jeune femme de 41 ans et pour la première fois également une africaine, le CIO prend résolument le virage de la modernité. Kirsty Coventry, dont les premières décisions seront très attendues, notamment à l'approche des prochains Jeux Olympiques d'hiver prévus début 2026 à Milan.
En France, le Sénat a adopté ce jeudi une loi pour réhabiliter les femmes condamnées pour avoir avorté avant la dépénalisation de l'IVG en 1975. La France ne plie pas face au vent mauvais qui souffle sur la planète. Les mots de l'ancienne ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, qui a proposé la loi, votée à l'unanimité. Cette adoption intervient 50 ans après le vote de la loi Veil dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse. 8 collectifs de victimes de l'enseignement catholique auditionnés ce jeudi devant les députés français. Quelques semaines après les révélations de violences physiques et sexuelles de l'établissement de Bétarame près de Pau dans le sud-ouest de la France, d'anciens élèves de pensionnats privés sont sortis du silence. Leur porte-parole demande à l'État et à l'Église de créer une cellule pour recueillir les témoignages des victimes. On écoute Constance Bertrand, ancienne élève et victime du collège Saint-Dominique à Neuilly-sur-Seine.
Je pense qu'on peut parler du MeToo de l'enseignement catholique. Les gens se rendent compte que ce qui leur est arrivé n'aurait jamais dû arriver. Des violences physiques, psychologiques ou sexuelles qui ont eu lieu dans des établissements depuis des années et ne croyez pas que c'est fini. Ne croyez pas que les auteurs sont décédés ou ont été mis hors d'état de nuire. Il y a encore des auteurs de violences qui sont dans les établissements scolaires. Des collectifs de victimes se montent dans la France entière. Tous les jours, il y a de nouveaux collectifs. C'est pour ça que j'ai enjoint les députés à aller dans leur circonscription, interroger, fouiller, et ça fait sourire mes camarades, mais voilà, on sait qu'il y a des différences énormes dans les diocèses, et ça, l'Église de France doit mettre tout le monde au pas. On voit qu'il y a des diocèses qui sont extrêmement collaboratifs dans ce travail, et le diocèse de Haute-Seine a été assez exemplaire. En revanche, on voit que du côté de Pau, les archives ne sont toujours pas à disposition des victimes. Mmh. Il n'y a pas de cellule d'écoute dans le diocèse de Pau. Il y en a une dans les Hauts-de-Seine, par exemple. Voilà.
La justice française ouvre une nouvelle enquête pour identifier d'autres victimes du pédocriminel Joël Le Skouarnec. Il est jugé à Vannes, dans l'ouest de la France, depuis le 24 février pour des viols et agressions sexuelles sur près de 300 patients. Son avocat indique qu'il a reconnu pour la première fois sa culpabilité pour l'intégralité des faits. RFI, bientôt 1h10, à Paris, minuit 10, en temps universel. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.